Bienvenue dans cette édition spéciale de l'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition des fêtes consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné cette année Radio France Internationale. Nous vous avons proposé leur reportage à Beyrouth la semaine dernière. Aujourd'hui, nous irons à Paris, à l'hôpital Bichat en pleine pandémie grâce à Radio France. La RTBF nous proposera le témoignage de Dédé qui se souvient avec émotion du bombardement de sa maison par les Alliés en décembre 44. Et nous rencontrerons André Beausoleil, le petit patron d'un camping frappé par la crise au Canada. Des extraits des meilleurs reportages soumis cette année au prix du journalisme des médias francophones publics. Un prix que vous décernez, vous, notre public, au début du mois de décembre. Vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et puis aussi dans le reste de la francophonie grâce à Radio France Internationale. 100 auditrices et auditeurs au total donc qui ont choisi leur reportage préféré parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Et vous avez classé deuxième le reportage de Radio France, celui de Solène Lehen à l'hôpital Bichat à Paris. Elle s'y est rendue juste après le pic de la première vague. En voici un extrait au sein du service de pneumologie et on retrouve Solène juste après.
Des équipes qui tiennent debout ensemble, soudées, couvertes de cadeaux, de dons, de chocolat. Un hôpital qui rigole même.
Alors comme ça on dit qu'il est malade.
Huitième étage de la tour principale, nous sommes en pneumologie. À l'accueil, Leïla, Audrey et Séverine décompressent.
Alors c'est l'histoire d'un mec. C'est l'adrénaline.
Il est là, on voit la gauche.
Bonjour monsieur.
Salle d'attente, ton patient.
C'est tout à fait.
Merci mesdames.
À tout à l'heure.
Il y a de quoi avoir le sourire sur une chaise à côté. Nathalie Linon attend d'être reçue par le médecin. Elle se qualifie de survivante. Réanimation, coma. Finalement, elle sortira de l'hôpital dans 2 jours.
Au bout d'un moment, je vous l'avoue, j'ai voulu abandonner. Trop dur. J'ai des enfants, j'ai un super mari, j'ai 2 filles magnifiques. Ils m'ont annoncé leur grossesse chacune. Je me relève. Interdit de renoncer à quoi que ce soit. Et maintenant, je vais manger de la vie à pleines dents. C'est même plus la joie, là, ça va. C'est fou.
Ça fait presque 2 mois à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels souvenirs vous allez en garder?
J'ai eu des gens magnifiques. Remercier Nicolas, kiné respiratoire. C'est un jeune homme de 36 ans qui m'a redonné goût. Et c'est lui qui m'a fait respirer. Peut-être grâce à lui que je suis encore en vie. Je ne sais même pas comment le remercier. Je ne saurais jamais le remercier. Je pense que je n'aurai pas assez de souffle de ma vie, maintenant que j'ai du souffle, pour le remercier. Il y aura des souvenirs, lesquels je ne sais pas. Mais pas que des mauvais en tout cas.
Bonne santé, hein.
Bonne santé à vous.
Pour le professeur Camille Taillé, pneumologue, il y aura un avant et un après Covid à l'hôpital.
Tout a changé, toute notre vie a changé. Ce ne sera plus comme avant, je crois. On a vu des gens se révéler, prendre plein d'initiatives. On a vu des étudiants en médecine se transformer en infirmières. On a vu des chirurgiens qui allaient faire les aides-soignantes en réa. Enfin, on a vu des trucs extraordinaires, plein de gens super motivés. Donc oui, c'est beau de voir cet esprit de soignant qui se révèle dans l'adversité. Il y a plein de belles choses, plein de belles choses.
On quitte l'hôpital Bichat avec l'interne Timothée au piano. Solène Lehen, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un bel hommage au personnel hospitalier que vous nous avez proposé en fait là dans ce reportage.
On est mi-avril, l'épidémie, on l'a pas vu venir. On s'est retrouvés tous confinés du jour au lendemain. Les rues de Paris, par exemple, étaient complètement vides. Et puis il y avait quand même un petit îlot d'activité et c'était l'hôpital. Et donc j'ai découvert ces soignants qui étaient complètement épuisés. Ils étaient contents d'avoir réussi à passer cette première vague. On était vraiment 2-3 jours après le pic de l'épidémie. J'ai essayé de montrer dans ce reportage comment avait réagi l'hôpital, dans quel état il était après cette vague. Il a réussi à tenir bon, mais ça a été compliqué. Ils étaient tous très touchés, mais aussi très fiers d'avoir réussi à surmonter en fait cette vague.
Mais justement, combien de temps d'immersion pour arriver à recueillir ces témoignages-là ?
J'ai passé 24 heures à l'hôpital, on m'a ouvert tous les services, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai pu aller en service de réanimation comme à la chambre funéraire. Et j'avais peur au tout début, pour tout vous dire, de déranger parce que je me suis dit, ils doivent être débordés, ils ont autre chose à faire que de répondre à une journaliste. Et en fait, c'est tout l'inverse, j'ai été très surprise de voir que les personnels soignants, ils n'avaient pas eu l'occasion de témoigner, de raconter ce qu'ils avaient vécu et ils ont eu très envie, ils se précipitaient presque sur mon micro pour vider leur sac.
Un besoin de communiquer, de témoigner.
Vider leur sac. spectacle, dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Et il y avait aussi ce sentiment de dire qu'ils étaient fiers d'avoir pu travailler tous ensemble. On sait qu'en France, il y a des difficultés aujourd'hui à l'hôpital, des difficultés de moyens, de salaires. Eh bien là, l'hôpital a fait front et il y a des chirurgiens qui sont devenus brancardiers parce que leurs opérations étaient décalées, ils n'avaient plus rien à faire et ils ont voulu quand même donner un coup de main. C'est ça, cet esprit de communauté qui est un beau moment en fait, selon ces soignants. Ils étaient vraiment très heureux d'avoir surmonté cette épreuve tous ensemble.
Ouais. Vous l'avez dit, donc ce reportage, il remonte à la première vague. Vous avez eu des nouvelles depuis des équipes de l'hôpital Bichat dans la deuxième vague?
Oui, alors en fait, il y a une espèce maintenant, j'ai envie de dire, de banalité. On sait maintenant ce que c'est que cette maladie, on arrive un petit peu mieux à la gérer, même si ça reste dur, même si sur le temps, 6 mois après, les organismes sont très éprouvés, les soignants sont très très fatigués aujourd'hui en France.
Solène Lehen, merci à vous.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
J'avais 10 ans en 44. La radio-télévision belge nous ramène, elle, au XXe siècle avec ce reportage diffusé en décembre 2019 à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. C'est l'ultime tentative de contre-offensive allemande durant l'hiver 44-45, la plus grande opération de la Seconde Guerre mondiale sur territoire belge. Françoise Barré et Christian Mazuy de la RTBF ont retrouvé des enfants de la guerre, dont Dédé qui a vu sa mère mourir sous les bombes des Alliés. Extrait.
Depuis le 23 décembre, le ciel est dégagé au-dessus de l'Ardenne. L'aviation alliée attaque l'arrière des lignes allemandes pour entraver son ravitaillement. Oufalize et La Roche, dans une vallée encaissée, sont littéralement rasés. Le passage des convois allemands est bloqué. Les habitants sont effrayés, les températures descendent parfois sous les moins 20 degrés, les morts se comptent par dizaines. Dédé a 9 ans, petite fille insouciante. Il faut bien trouver un refuge, alors sa maman la laisse pour préparer les lieux où se mettre à l'abri.
Maman est revenue à notre maison, juste en face de l'hôtel de ville, pour arranger un petit peu la cave, et mettre des matelas, des couvertures, on ne savait pas ce que ça allait durer. Mais alors, entre-temps, le bombardement est arrivé. Quand on était dans les caves, le sol tremblait tout. N'est jamais... Il était surprise par un tremblement de terre, mais c'était ça.
Et un obus est tombé sur la maison.
Un obus? Des bombes, hein, madame. Maman criait après mon père, Camille, sauve-moi. Oui, mais elle était où dans la cave? À droite, à gauche, au milieu, dans tous les décombres, comment voulez-vous aller la retrouver? Il y avait un inspecteur du ravitaillement de Bruxelles qui était tué avec maman. Donc ils ont été à deux être tués là dans la cave. 42 ans, vous rendez compte? Et alors je vous dis, quand on voit la maison avant d'entrer quelque part et puis qu'on ne voit plus que des ruines, alors la roche tout en feu, que j'ai vu. Pour une gamine de 9 ans, ça fait peur, C'est pas oublié ça, Je sais pas, moi, c'était imprimé dans le cerveau, ça.
Dédé n'a jamais oublié de garder à ses côtés son seul souvenir d'une maman tuée par les bombardements alliés.
Eh bien, j'étais chercher ma poupée, qui était coincée entre un mur et un coffre. Alors j'ai récupéré ma poupée. J'aurais mieux aimé récupérer maman. Mais elle est belle, Enfin, c'est un souvenir. Elle a résisté au bombardement.
Le reportage de Françoise Barré. Pour conclure cette seconde édition consacrée au prix du journalisme des médias francophones publics, direction le Canada. Nous sommes en mai dernier. André Beausoleil a investi toute sa vie dans le petit camping auquel il a donné son nom. Il doit composer avec la pandémie et la fermeture des lieux de villégiature. L'homme de 56 ans attend qu'on l'autorise à accueillir les campeurs sans lesquels son existence n'a plus de sens. Extrait du reportage d'Akli Haït Abdallah.
Ma première rencontre avec André Beausoleil remonte au printemps 2011, quand la rivière Richelieu était sortie de son lit pour envahir son petit paradis.
Là, c'est devenu notre star affaire. Regardez ça, monsieur. Vous voyez, là, les roulottes, c'est tout inondé. Là-bas, regardez, il y en a une qui flotte là-bas. Les roulottes sont toutes endommagées, les chalets sont endommagés. Il y a un pied d'eau dans tous les chalets. C'est complètement fini. J'ai l'impression qu'il n'y en aurait pas de camping cet été. C'est impossible. quand tu rentres une chaloupe d'une maison, là. J'essaie d'être fort, mais je ne sais pas si moi, je suis assez fort pour passer au travail. Les inondations, j'ai fait une grosse dépression parce que je suis quasiment sûr que je partais de camping, que j'avais tout investi pour rien. Là, j'ai réussi à passer au travers. Ça m'a pris 9 ans, puis là, c'est la première année que je m'en sortais, que c'était à plein encore. Là, il arrive la pandémie. À tous les 10 ans, je suis pogné pour recommencer. J'ai plus peur, là, de le perdre que j'ai eu peur des inondations. Parce que c'est sûr et certain que là, si on rouvre pas le camping, c'est définitif que d'ici le mois de septembre, moi, ça va être la faillite, ou bien non, ça va être une reprise de finances. C'est sûr que ma vie va y avoir passé pour absolument... Je vais avoir investi ma santé, mon fonds de pension, m'a tout avoir investi pour me retrouver à la rue. Me retrouver à la rue, je sais pas comment m'en sortir. Si le gouvernement nous aide pas plus que ça, s'ils peuvent pas nous aider, au moins qu'ils nous laissent ouvrir. Fait que tu rouvres ou tu rouvres pas, mais tu nous aides ou tu nous aides pas, tu le dis tout de suite. Et si tu veux le rouvrir, attends pas dans un mois, il va être trop tard. Rouvre-le tout de suite. Des litières de chat à tous les jours. Moi, je mets ma musique tranquille. Puis en même temps, j'ai fait des nouvelles toute la journée. Puis quand il y a joué qui parle des campings, ben non, comme tout à l'heure, ça va être le point de presse. Là, je m'installe, écoutez mon point, le point de presse de M. Legault, M. Arruda, en espérant qu'ils vont parler de nous autres puis qu'on sache où qu'on s'en va. C'est juste ça, qu'ils nous le disent.
Voilà, on se quitte donc au Canada. Merci de votre attention. On termine ainsi cette édition spéciale de l'Accent des Autres. Et dès la semaine prochaine, nous retrouvons les chroniqueurs de la RTBF, de Radio France, de Radio France Internationale, de la RTS et de Radio-Canada sous la houlette d'Olivier Nederland.